Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe là? Où en sommes-nous là, aujourd'hui là? Ouf, ah oui, bien sûr, mais oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Où avais-je le cerveau, hein? C'est l'heure de l'émission. Nicolas Gradiel, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, est-ce que l'habit fait le moine?
Ah, drôle de question, l'habit fait pas le moine, mais il y contribue grandement.
Même question pour vous, Manon Becquet. L'habit fait le moine?
Je pense que l'habit ne fait pas le moine, mais que je répondrai la même chose que Monsieur Gradiel, qui lui contribue.
Et moi, mon look, il est comment? Comment vous en déduisez quoi quand vous me voyez comme ça?
Un mec sympa, c'est, tu te sens bien, t'es à l'aise dans tes baskets, donc c'est l'essentiel.
Oui, alors, il faut pas se fier aux apparences. Et vous, Manon, vous avez un avis sur mon look, ma façon d'être?
Moi, je dirais que le pantalon et la chemise respectent les codes de l'entretien, donc c'est déjà un bon point.
Eh bien, vous le voyez, c'est un sujet particulier aujourd'hui qui nous donne... On a quelques indications avec Nicolas et Manon. On va voir ça pendant les 56 minutes, des sacrées questions qu'on s'est posées, mais avant d'entrer dans le détail, on va faire durer un peu le système. Allez, en route vers de nouvelles aventures, c'est parti.
Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au bip, vous laissez votre message.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'étincelle dans la ville sur Allegre FM. Heureux de vous retrouver comme tous les lundis à 9h. Nicolas Gradiel, bonjour.
Bonjour.
Manon Becquet, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes les représentants d'une association qui s'appelle la Cravate Solidaire. Nicolas Gradiel, vous êtes le fondateur d'ailleurs, tout seul comme un grand.
Ah non, c'est avant tout une aventure entre copains cette histoire-là.
Entre copains, bah vous allez nous raconter pendant ces 56 minutes. Et Manon Becquet, vous êtes chargée des partenariats associatifs au sein de la Cravate Solidaire.
Oui, tout à fait. C'est une bonne réponse.
Voilà, je ne me suis pas trompé en préparant cette émission. Alors, on va voir avec vous ce que c'est, bien sûr. Merci à tous les deux d'avoir accepté de nous recevoir. Ça fait longtemps que je m'intéresse à la Cravate Solidaire. Je vous avoue qu'on était voisins à une époque, les studios d'Aligre. On était juste en face, là, dans le centre Paris Anime. Et en passant, ben, un jour, j'ai frappé à la porte, je suis venu vous voir. Et puis, merci encore une fois pour cet entretien que vous nous accordez. Nous sommes aujourd'hui dans un endroit charmant. votre endroit, c'est chez vous, dans le 13e arrondissement de Paris. Ça pourrait ressembler à une boutique, peut-être à un salon. C'est plus qu'une simple boutique, c'est plus qu'un simple salon, car c'est depuis cet endroit que vous préparez des choses étonnantes et vous remettez, j'ai envie de dire, sur le rail un certain nombre de gens. Vous allez nous raconter tout ça. C'est un endroit plein de ressources et c'est pas par hasard que nous sommes en votre compagnie, puisque c'est vous qui allez nous raconter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme le veut la tradition dans cette émission, sachez que tous nos invités, vous êtes tout simplement, durant ces 56 minutes, les étincelles de cette émission. Voilà. La Cravate Solidaire, c'est un réseau d'associations reconnues d'intérêt général qui œuvre pour l'égalité des chances. Vous êtes une association de 1901, c'est bien cela ?
Exact, à but non lucratif.
Donc, beaucoup de bénévoles, et vous avez comme objectif de lutter contre la discrimination à l'embauche, et notamment celle liée à l'apparence physique. Et oui, il y a encore plein de freins à l'embauche hein, pour accéder à l'emploi, c'est clair. Moi, je pensais que ça s'atténuait, tout ça. Ben, ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Et l'apparence que l'on donne de soi, la façon de se présenter, reste un critère discriminatoire, discriminant. On prend le verbe qu'on veut. Vous avez fondé en 2012... Nicolas Gradiel, l'association. Alors, qu'est-ce qui vous a pris dans la tête de vouloir créer cette association, de vouloir créer la Cravate Solidaire ?
C'est effectivement une drôle d'idée. Je pense que si on savait ce que c'est devenu aujourd'hui, je ne sais pas si on se serait lancé, mais en tout cas, on y a été avec autant d'énergie que peu de projets derrière. On s'est juste dit, nous, on est étudiants à la Défense, on n'a que des gens en costard cravate autour de nous. Il y a plein de gens qui cherchent du boulot, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une tenue ou qui n'ont pas connaissance des codes. Pourquoi ne pas essayer de collecter tout ce qui dort dans les armoires de ces gens-là et de les redistribuer à des personnes qui sont volontaires, qui cherchent du travail et puis qui ont peut-être juste besoin d'un petit coup de pouce en plus.
Vous aviez des problèmes d'emploi à l'époque ? Des problèmes de présentation ?
Non, on ne va pas non plus faire larmoyer les gens. Je pense qu'on a eu la chance de pouvoir s'acheter une tenue. On s'est rendu compte à quel point c'est un investissement conséquent, alors que quand on a 20 ans pour aller faire un entretien, en fait, tu achètes une tenue que tu vas peut-être mettre qu'une seule fois dans ta vie, parce que c'est une période où tu évolues beaucoup morphologiquement. Et en étant confronté à ça, et en parallèle du fait qu'on voyait toute cette consommation de textiles avec des gens, même dans nos proches, des gens, tout le monde a son armoire remplie. Du coup, on s'est dit, on va essayer de créer notre petit truc, à se dire on va collecter, redonner, et on verra bien ce qui se passe, sans vraiment d'idée derrière la tête.
Alors le petit truc, il se développe, parce qu'en 2005, le projet s'étend sur 4 villes, grâce au soutien de la Fondation S'engage. En 2017, est mis en place le parcours cravate à destination des entreprises. En 2019, démarre la Cravate Solidaire mobile sur les routes en Île-de-France, avec la création de la 10e association du réseau. En 2020, vous annoncez plus de 1000 bénévoles sur votre réseau. En 2021, une logique de parcours d'accompagnement renforcée est installée avec un programme de formation à la non-discrimination. Alors, aujourd'hui, en 2026, qui veut me répondre ? Nicolas, c'est quoi la Cravate Solidaire ?
Alors aujourd'hui, on essaye d'être le spécialiste du dernier kilomètre avant l'entretien. En gros, nous, on est vraiment au bout de la chaîne d'insertion. Donc on travaille avec énormément d'associations qui proposent des parcours plus ou moins longs à des personnes qui vont avoir des besoins différents. Si tu as besoin de savoir où tu vas dormir le soir, c'est peut-être pas le bon moment pour avoir un costume et préparer ton entretien. Tu as peut-être d'autres problématiques à régler avant de pouvoir te projeter dans la suite de ton projet pro. Donc nous, on travaille avec... Sur Paris, on a plus de 700 référents avec qui on travaille, qui nous orientent des candidats. Et nous, vraiment, on est en bout de chaîne. Donc, c'est-à-dire qu'on va participer à valoriser tout le parcours qui a eu lieu avant. Donc, concrètement, une personne va avoir son entretien d'embauche de prévu avec une date. Ils vont nous orienter, ils vont nous donner les coordonnées de cette personne-là. Et nous, on va lui proposer de venir pour préparer son entretien dans nos ateliers.
Ça veut dire en plus clair que tous les candidats qui ont besoin d'un coup de main à la Cravate Solidaire, il faut déjà qu'ils viennent avec un projet d'emploi, peut-être même avec un entretien qui se profile à l'horizon, Nicolas ?
C'est sûr que c'est le moment où ça va être le plus pertinent pour les gens parce que quand tu as ton entretien, tu sais que tu as un entretien la semaine prochaine, forcément tu es dans l'idée de dire « Ok, comment je vais m'habiller pour y aller ? Comment je vais préparer mon discours ? Comment je vais l'orienter en fonction de l'offre d'emploi vers laquelle je vais ?» Et c'est là où on va être le plus pertinent parce que du coup, les ateliers coup de pouce, on n'en a pas encore trop parlé.
Et bien justement, j'allais y venir. Vous proposez des ateliers de coup de pouce, c'est ça ? Vous annoncez près de 44 000 heures de bénévolat, c'est beaucoup. C'est quoi les ateliers coup de pouce ?
Alors les ateliers coup de pouce, c'est l'idée qu'on propose un accompagnement individuel pour chaque personne qui va franchir la porte du local qui dure 2 à 3 heures. C'est composé de 4 étapes. En gros, vous avez une partie d'accueil où il y a des personnes super sympathiques et solaires qui vont vous accueillir, qui vont parler de votre projet professionnel, de vos barrières à l'embauche, de vos attentes de la journée. Et l'idée, c'est de créer un climat de confiance dans lequel on va aller vers la deuxième étape qui va être celle du coaching en image. Donc on a des bénévoles qui sont coachs en image, soit professionnels, soit qui ont l'appétence pour les vêtements. Et là, vous imaginez un grand dressing avec, ici on a 1500 tenues qui sont disposées. Et le but, c'est qu'il y ait du choix pour toutes les morphologies et tous les projets professionnels. Donc pendant 45 minutes, une heure, chaque personne va prendre le temps d'essayer des vêtements. Et l'idée, c'est vraiment qu'on transmette les codes de l'entreprise de manière assez ludique. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire aux gens « Ok, tu arrives ici, tu vas en costard-cravate parce que c'est comme ça qu'on va en entretien d'embauche ». Le plus important pour nous, c'est que les gens se sentent bien dans leurs vêtements. Donc ça correspond à la fois évidemment à leur projet professionnel parce qu'on est là pour lutter contre la discrimination à l'apparence, donc c'est nécessaire. Mais surtout que les gens se sentent bien dans leur basket et aient confiance en eux dans la tenue à la fin.
Alors justement, avant de continuer avec vous, permettez-moi de revenir encore à la mission principale de la Cravate Solidaire. La Cravate, c'est un réseau d'associations reconnues d'intérêt général qui œuvre pour l'égalité des chances avec pour objectif de lutter contre la discrimination à l'embauche, notamment celle liée à l'apparence physique. À quoi vous attribuez, Nicolas, cette discrimination à l'embauche ?
Dans notre quotidien, on va juger les gens sur l'apparence, ce n'est pas que propre au milieu professionnel. On va tous regarder, on va tous savoir à quel groupe on peut appartenir quand on est au lycée. Il y a des groupes bien distincts de gens qui s'habillent différemment. Enfin, on va à chaque fois avoir des biais cognitifs qui vont agir, qui vont faire qu'on va mettre les gens dans des cases pour que notre cerveau aille le plus vite possible dans une direction. Et une fois qu'il a été dans cette direction, il déteste avoir tort, notre cerveau. Donc c'est là où ça va être encore plus compliqué, et c'est ce qui fait que l'apparence est un des principaux critères de discrimination.
Moi j'aime bien avoir tort, ça me permet de réfléchir, ça me permet de rêver aussi. En tout cas, depuis la création de la première cravate solidaire, est-ce que vous avez le sentiment malgré tout que ça évolue ? Est-ce qu'on en reste toujours pour se présenter dans un boulot ? C'est quoi la cravate, les pompes cirées, qu'est-ce qu'il faut ?
Évidemment, les codes vestimentaires, ils évoluent. De toute façon, ça reste assez cyclique. Donc peut-être que ça reviendra, peut-être pas. Nous, le plus important, c'est encore une fois que les gens ils puissent disposer de vêtements dans lesquels ils sont à l'aise, qui vont leur permettre de passer les premières barrières mentales des recruteurs et surtout dans lesquels ils vont pouvoir exprimer leur plein potentiel. C'est vraiment ça le plus important. Donc nous, on s'appelle la cravate solidaire parce que c'est symbolique. Mais le plus important, c'est que les gens ils repartent avec la tenue qui est adaptée à leur goût et à leur projet. C'est vraiment pour ça qu'on fait un atelier qui dure 45 minutes, une heure, où c'est individuel. Et on va essayer de comprendre à chaque fois pour chacun ce qu'il a envie de mettre, ce qu'il n'a pas mis depuis très longtemps. On a beaucoup de personnes qui viennent qui n'ont peut-être pas forcément essayé des chemises de couleurs diverses ou variées, ou alors des robes, des jupes pour les femmes, ça dépend. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup pris de soin d'eux ces derniers temps, ces dernières années. Et parfois, le fait d'être dans un environnement bienveillant comme ça, ça permet aussi d'avoir des petits déclics. Et derrière, c'est la confiance en soi. Et finalement, devant le recruteur, c'est palpable d'avoir une personne qui a confiance en elle, qui est sûre d'elle.
Alors, on va quand même entrer un peu plus dans le détail, parce que finalement, je me présente ici un jour, j'ai besoin d'être looké. On va employer le terme relooké, je ne l'aime pas beaucoup, mais bon, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut adhérer à votre association ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des frais ? Est-ce qu'il y a des obligations ? Est-ce qu'il y a des prérequis ?
Alors la cravate solidaire, elle est reconnue d'intérêt général, comme vous le disiez au début. Et forcément, on est ouvert à tous et c'est gratuit pour tout le monde. Nous, les seuls critères qu'on peut avoir, c'est que les personnes soient vraiment en fin de parcours d'insertion. Donc c'est vraiment qu'ils aient un projet professionnel qui soit bien défini et qui, dans le meilleur des cas, ont un entretien d'embauche de prévu. On a plus de 90% des gens qui viennent qui sont orientés par des associations partenaires, justement pour que c'est elles qui savent à quel moment du parcours l'action de la cravate solidaire va être le plus pertinent et le plus propice à ce que les gens, ça leur apporte le plus possible finalement.
Alors on le voit bien ici, vous procédez de façon très organisée avec un accompagnement en 4 étapes, si j'ai tout bien compris. Pour rebooster le candidat, c'est le terme que vous employez, développer leur confiance, l'estime de soi, la confiance en soi, et leur donner les clés pour réussir leur entretien, le fameux entretien d'embauche. Alors il y a l'accueil, le coaching image, le coaching RH, puis la session photo, parce que ça se termine par une photo de famille, alors de famille de soi-même.
Oui, c'est le petit moment un peu sympa, mais c'est vrai que tout à l'heure, je parlais de la partie coaching en image, donc on en était vraiment à la deuxième étape où les gens sont en tenue Et la garde, parce que c'est un don. À la fin, les gens repartent avec la tenue complète, que ce soit pour hommes et femmes. Et ensuite, ils vont passer un entretien blanc. Ça, c'est la troisième étape. Donc, il y a deux coachs RH qui sont mobilisés aussi chaque jour, où l'idée, ça va être de mettre en pratique sa tenue, donc se sentir à l'aise dedans. Avec sa tenue, c'est sa manière de parler qui va évoluer, sa manière de se tenir, de se comporter. Et nous, on va essayer de travailler les codes verbaux, non-verbaux, les trucs très basiques, genre pas tourner sur sa chaise, accepter un verre d'eau, savoir prendre des notes. C'est vraiment des trucs très basiques.
Et bien justement, j'allais y venir, ces fameux codes verbaux et non-verbaux. Les codes verbaux, bon, ben c'est ce qu'on raconte. Quand je dis une connerie à l'antenne, et ben on l'entend, on la comprend. Mais les non-verbaux, c'est quoi ?
Les codes non-verbaux, ça va être, comme je disais, là, serrer la main, regarder dans les yeux. C'est des codes qui sont où tout va passer par son attitude, par son savoir-être. Et les recruteurs, c'est des détails qu'ils vont tout de suite percevoir parce qu'ils ont l'habitude de regarder ces choses-là. Donc c'est des choses à maîtriser. Si on les connaît pas, on ne peut pas les maîtriser. Et si on ne les maîtrise pas, on peut être discriminé. Donc autant les travailler, c'est aussi ce qu'on propose. C'est vraiment un cadre bienveillant où le but, c'est de s'entraîner avec des professionnels.
Est-ce que vous mettez quand même l'accent sur les capacités? Vous inquiétez pas, Nicolas, on a 56 minutes.
Oui, c'était juste pour finir la quatrième étape de l'atelier, que les gens comprennent.
On va y venir à la quatrième étape. Mais moi, ce qui me sidère, c'est, OK, le look, l'habit ne fait pas le moine, les codes verbaux, les codes non-verbaux, mais en même temps... Le candidat, il a quand même quelque chose à raconter en termes de compétences, en termes de savoir, en termes d'expérience, en termes de relationnel, en termes... Tout ça, vous le mettez en valeur aussi avec lui ?
Oui, c'est le but. L'idée, c'est de faire 40 minutes, une heure avec deux coachs RH. Donc, on va à la fois s'entraîner à passer un entretien qui va être dit blanc, dans le sens une simulation d'entretien. Et après, il y a toute une partie débrief où justement, le but, c'est d'aller chercher tout ce qui va s'apparenter aux loisirs, aux différentes expériences. On a du mal à mettre des mots sur ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu apprendre, les compétences qu'on a. Et nous, l'idée, ça va être d'aider les gens à les organiser pour que dans le discours, ce soit clair et limpide.
C'est quoi un projet professionnel visé ? Visé ?
Visé ?
Oui, visé, c'est ce que j'ai lu sur votre site internet.
Mais en fait, chez nous, les gens, ils viennent avec l'idée qu'ils vont travailler dans le domaine de la sécurité, de l'hôtellerie-restauration, n'importe quel domaine. C'est ça le projet professionnel qu'ils ont déjà en tête. Donc nous, ça nous donne une base sur laquelle on va travailler. Parce qu'à chaque domaine est associé des codes particuliers, que ce soit vestimentaire ou même dans la manière de mener son entretien.
D'accord. En fonction du boulot qu'ils veulent faire, pour décoder le truc, tu veux être pompier chargé de sécurité, ouais. Ben voilà comment ça marche dans ce métier, voilà comment on doit se présenter, voilà comment on doit se fonctionner, voilà comment on doit, en tout cas, vous donner des bases.
Ben, la sécurité, je pense, c'est un bon exemple. Sécurité, c'est costard noir, chemise blanche. Il n'y a pas de débat, en fait. Donc, on n'est pas là pour débattre. Si la personne, elle a des difficultés pour s'équiper de cette tenue-là ou qu'elle utilise la tenue du cousin, de la cousine, de je ne sais pas quoi, tu ne seras jamais à l'aise dans les tenues de quelqu'un d'autre le jour de ton entretien. Donc là, le but, c'est qu'ils aient cette tenue pour leur entretien et même pour après. Et après, l'entretien blanc avec les RH, c'est vraiment l'idée de bien valoriser les certifications que les gens ont pu avoir, l'expérience qu'ils ont pu mener dans certaines de leurs précédentes opportunités professionnelles. Donc oui, on a des métiers où forcément, il y a des codes qui sont induits. Il y en a d'autres qu'on peut laisser un peu libre cours aux envies des gens.
Nicolas Graziel, Manon Becquet, je vais pas tarder à vous proposer une pause musicale. Je rappelle que nous sommes en compagnie de vous deux depuis le début de cette émission et que c'est depuis la Cravate Solidaire, ce lieu que vous animez, ce lieu que vous avez créé, le premier. C'était ici le premier lieu ?
Alors pas vraiment. Le premier lieu, il était plutôt dans une cave sans fenêtre parce qu'il fallait bien commencer quelque part. On a eu la chance d'être dans le 18e au sous-sol d'une mission locale. Disons qu'on devait accéder par un monte-charge qui donnait sur un local poubelle, c'était pas très très accueillant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même assez fiers d'avoir un accueil où on se sent à l'aise. On a essayé de reproduire plutôt les codes d'une petite boutique pour que les gens se disent qu'ils ont vraiment des vêtements de qualité et que ça les mette aussi dans une dynamique où ils savent qu'on va les valoriser et qu'ils vont se sentir vraiment écoutés dans leurs besoins.
Et je confirme, c'est un endroit charmant. Nous sommes donc rue Nationale à la Cravate Solidaire au 162 dans le 13e arrondissement. Cette première pause musicale, eh bien, c'est un chanteur qui va nous l'interpréter. C'est une chanson que je vous propose qui a été très populaire parce qu'il en a créé d'ailleurs pas mal des populaires. Il est né en 1944 à Nérac dans le Lot-et-Garonne. Sa mère est bretonne, son père est russe, pianiste et compositeur de variété, juif d'origine ukrainienne. Son père est né à Odessa. Il se réfugie en 1929 à Paris. Sa mère est danseuse originaire de Lennon dans le Finistère. Une famille d'artistes donc, on le voit bien. ce qui va inspirer le petit, et oui, qu'il deviendra mélodiste, pop, comme on dit, et pianiste, bien sûr. Il cultive une apparence singulière. On le surnomme l'amiral. Il est le compositeur et l'interprète de nombreux succès populaires avec des mélodies et des textes remplis de poésie. On écoute jour après jour. C'est Michel Polnareff sur Ligue FM.
Jour après jour, le temps passe et personne ne me rendra cet enfant qui m'abandonne. Jour après jour, la nuit tombe et jamais je ne le verrai plus, non, plus jamais. Écoute-moi, il était une fois un coin de France, un coin d'enfance. Jour après jour, la vie passe et étonne. Moi, j'étais cet enfant qui m'abandonne. Jour après jour, je change de visage comme d'un paysage. Oh mon amour, oh mon amour, aime-moi.
Écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville, présentée par Babandeli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Jour après jour, interprété par Michel Polnareff, c'est sur Aligre FM, c'est dans l'étincelle dans la ville, et nous continuons notre route depuis la cravate solidaire rue Nationale dans le 13e arrondissement à la découverte du travail méticuleux et précis qui est réalisé ici pour changer le regard et les pratiques des recruteurs, pour lutter contre les discriminations à l'embauche et notamment celles liées à l'apparence physique. Alors, l'apparence physique, Nicolas Gradiel, c'est pas que le corps, c'est l'habillement, on l'a dit, ça parce que le corps, on peut pas le changer, vous envoyez pas les gens faire de la chirurgie esthétique, j'imagine, mais on a vu en détail tout ceci. Après, il y a plein d'actions que vous réalisez, on va voir avec Manon Becquet, mais finalement, pour terminer avec vous, Nicolas Gradiel, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la cravate? C'est quoi les objectifs qui arrivent sur 2026? Ça marche comment?
Déjà, on a de plus en plus de gens qui souhaitent bénéficier de nos services. Donc, l'un des objectifs, c'est d'arriver à maintenir le niveau de qualité avec des vêtements qui sont toujours aussi adaptés et aussi qualitatifs pour les gens, d'avoir des bénévoles qui sont là pour les bonnes raisons, qui vont transmettre leurs compétences. Ça, c'est la clé. Donc, nous, déjà, le premier élément, c'est de maintenir une qualité et de répondre aux besoins des gens qui sont quand même grandissants. Donc, c'est déjà un sacré challenge. Et après, on essaye aussi d'aller au plus proche des gens. Donc, on a des véhicules itinérants qui circulent sur Paris dans le 93, 95, 78. Et l'objectif, c'est d'aller directement sur place pour que les personnes n'aient pas de contraintes liées à la mobilité ou à des problématiques familiales ou autres, et de pouvoir vraiment faire en sorte que la recherche d'emploi, la projection dans un projet pro, elle soit 100% dédiée à ce moment-là et que les gens soient à l'écoute. Donc on a des véhicules itinérants qui se déplacent, on a vocation à ce qu'ils se déplacent encore plus, on en a 3 maintenant, et l'objectif c'est de faire évoluer ces choses-là. Dernière chose qu'on recherche aussi, ça permet de passer des petits messages, on ne va pas se mentir.
On ne se gêne pas, allez-y Nicolas.
On a aussi envie de... Là aujourd'hui on est dans le 13e arrondissement comme vous le disiez, et on a aussi pour ambition d'avoir un local potentiellement dans le 17e ou vers la Défense, pour que les départements qui sont de l'autre côté de Paris, plutôt du côté ouest du coup, soient aussi plus accessibles pour nos candidats.
Merci beaucoup Nicolas, vous pouvez rester avec nous, hein. Vous pouvez continuer à nous accompagner. Et je voudrais maintenant voir avec vous Manon Becquet, parce qu'on va aller se promener dans la cravate solidaire. Hein. Alors là on était installé dans un charmant petit salon autour d'un café et d'un verre d'eau. Alors ça se passe comment? Ça se décompose comment? Racontez-nous.
Eh bien l'atelier coup de pouce, donc comme le précisait Nicolas, ça se décline en 4 étapes. Et si vous voulez, on peut peut-être se diriger là où a lieu la première étape qui est l'accueil. Et ensuite on fera le petit chemin que fait le candidat, si ça vous va.
Allez, c'est parti, on y va. Alors autour de moi, des portants avec des vêtements, des paires de chaussures, des paravents, des grands miroirs. On a l'impression que c'est une boutique, mais c'est plus qu'une boutique, on vous l'a raconté en première partie de cette émission. Et puis un endroit charmant, chaleureux, accueillant. Et nous voici donc au point d'accueil. Alors, j'arrive, toc, 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 je rentre. Bonjour, voilà, je vais avoir un entretien d'embauche dans quelques jours, dans quelques temps. On m'a dit de venir vous voir parce que finalement, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Alors, on l'a bien vu en début d'émission, mon look, il ne va pas du tout. Il est complètement has-been, il est à côté de la plaque. Comment ça se passe avec vous ?
Alors, en fait, chaque personne qui vient ici a déjà rendez-vous avec nous. On fonctionne, ça c'est une autre partie, mais on fonctionne comme on disait tout à l'heure, avec des partenaires qui orientent les personnes. Mais donc, une fois que la personne arrive là, l'idée, c'est vraiment de la mettre à l'aise le plus possible, de créer effectivement ce lien de confiance et ce climat qui est confortable pour la personne. Donc, de lui réexpliquer ce qui va se passer, de se présenter, de comprendre aussi quel est son parcours, si elle a des attentes, si elle a des freins aussi identifiés, pour que derrière, l'atelier se déroule de la meilleure manière possible pour elle. Donc ça, c'est vraiment le temps numéro 1.
Moi, je ne me suis jamais intéressé aux habits, aux fringues. C'est toujours un truc qui m'est passé un peu par-dessus la tête. Là, vous m'impressionnez quand même. Alors, en bien, hein, il y a toutes sortes des portants avec des vêtements partout. Comment on va faire avec quelqu'un comme moi ?
Alors, c'est très simple. Ça arrive souvent. Ce n'est pas un problème, je vous rassure. Là, justement, vous allez être accompagné par 2 bénévoles qui sont coachs en images. L'objectif de ce temps-là, c'est que ces personnes-là vous accompagnent, donc comprennent votre parcours, quelles sont vos attentes par rapport à votre projet et surtout à vos goûts. En fait, ils vont vous proposer plusieurs tenues en fonction de ce que vous allez leur dire pendant cet échange. Et ensuite, ce sera à vous de décider, entre guillemets, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, pour repartir avec la tenue dans laquelle vous vous sentez bien, en confiance, et surtout une tenue que vous reporterez idéalement pour les entretiens d'embauche.
Alors ça, c'est la première phase, c'est l'accueil. On détermine les besoins, on regarde ce qui se passe, on regarde comment réagit le candidat. Lui regarde aussi comment vous réagissez. Et ensuite, il y a une deuxième partie.
Tout à fait, donc la partie du coaching en image. C'est exactement ce temps-là que je viens d'expliquer. En fait, une fois que la personne a fait le petit temps d'accueil, elle passe donc dans le dressing pour faire le coaching image accompagné des 2 bénévoles coach en image.
Les essayages.
C'est ça, c'est des essayages, mais plus concrets, puisque l'essayage va aboutir au don de la tenue professionnelle.
Alors, une fois que la tenue a été choisie, ça peut demander combien de temps ?
Alors, on se laisse 45 minutes. Après, effectivement, on est humain. Il y a ce lien humain quand même qui est primordial. Donc, des fois, c'est un peu plus court quand les 45 minutes ne sont pas nécessaires. Et parfois, le temps, il va être un peu plus allongé quand la personne n'arrive pas à choisir. Enfin, voilà, l'idée, ce n'est pas de rester fixé sur un timing. Mais on aime bien quand même que la gestion de l'atelier soit cadrée, entre guillemets. Mais ça reste pas au millimètre près non plus.
Alors après, on passe à la troisième partie. Ça se passe quelque part, vous m'emmenez, on reste ici ?
Eh ben, je peux vous emmener juste dans le bureau ici. Effectivement, une fois habillée, la personne elle passe en coaching RH. Le coaching RH, qu'est-ce que c'est ? C'est un temps de simulation d'entretien qui est adapté à la personne, à ses attentes et à son parcours. Dans le sens où, si elle a un entretien de prévu, et comme Nicolas le disait, c'est là où on est le plus pertinent, là on va faire une simulation d'entretien. A contrario, quelqu'un qui n'aurait pas les codes de l'entretien ou bien qui a d'autres problématiques, la gestion du stress, savoir parler de son parcours. Là, ça peut être aussi sous forme d'échange pour justement aborder tous ces aspects-là. L'idée, c'est de préparer la personne pour que le jour où elle décroche un entretien, elle soit la plus prête possible, quoi, finalement.
Oui, la plus convaincante.
Voilà, tout à fait. Et à l'aise, en fait, et en confiance avec elle-même. C'est aussi d'ailleurs tout l'intérêt de ce temps-là, c'est de mettre en avant à la fois les axes d'amélioration, parce qu'il y en a bien évidemment, mais il y a aussi bien évidemment des points forts, des ressources, et c'est toujours la partie un peu plus compliquée que de parler de soi de manière positive, se mettre en avant, et c'est tout notre intérêt, tout ce qu'on recherche pendant ce temps-là, c'est de faire comprendre aux personnes qu'elles ont des choses à mettre en avant et d'être conscientes, en fait, de leurs ressources.
La personne doit être consciente de ses ressources, vous le dites bien, vous le dites très bien Manon Becquet, mais en même temps, vous n'êtes pas un vrai recruteur, vous êtes juste une coacheuse, j'utilise ce terme. Le jour J, ça ne sera plus la même chose.
Alors, moi, effectivement, je ne suis pas une recruteuse. En revanche, les bénévoles qui accompagnent les personnes dans ce temps-là sont des personnes qui ont une expérience significative dans le monde du recrutement. On a encore beaucoup de bénévoles qui sont actifs, donc ils ont les codes actuels, et on a aussi des bénévoles qui sont à la retraite. N'empêche que ces bénévoles coach RH ont une expérience dans le monde du recrutement et donc savent mener l'entretien, savent quelles sont les questions à poser en entretien. Ils le font bien évidemment avec la posture que l'on attend à la cravate, donc c'est une posture d'accompagnement, d'écoute, mais ils ont vraiment cette capacité à mener un entretien d'embauche.
Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont été coachés RH? Qu'est-ce qui leur arrive à ces candidats?
Alors, une fois qu'ils ont terminé ce temps-là, il y a toujours un débrief. Là, l'idée, c'est que les coachs fassent un retour sur ce qu'ils en ont pensé. C'est vrai que dans la vraie vie, entre guillemets, on n'a pas la chance d'avoir un retour. Quand on échoue à un entretien, on sait rarement pourquoi. Et donc là, l'idée, c'est de leur dire ce qui a les axes d'amélioration, on va dire, mais aussi et surtout les points forts. Et à l'issue de ce temps-là, on passe à la petite session photo, qui n'est pas obligatoire, mais en tout cas, on a un studio photo au fond, donc on fait et des photos professionnelles pour le CV ou LinkedIn, et des photos qui n'ont rien à voir, beaucoup plus informelles pour garder un souvenir de l'atelier et puis avoir des photos de soi aussi sur lesquelles on s'apprécie, quoi, finalement.
Et est-ce que vous enregistrez aussi vos candidats, vos postulants?
On les enregistre en vidéo, vous voulez dire?
Vidéo ou audio, enfin l'un et ou l'autre?
Alors non, nous on ne fait pas de vidéo. Alors ça arrive des fois pour des supports de communication, mais c'est très très rare. Généralement l'atelier il vit tout seul et il n'y a pas d'intervention de radio ou de d'autres médias.
Mais sans parler de passer sur un média, le fait de se réentendre, est-ce que ça ne serait pas une source d'inspiration pour se mettre plus à l'aise?
Alors si, je pense que ça peut être le cas, mais c'est vrai que nous on ne le propose pas, pas encore peut-être.
Eh ben, en tout cas, c'est ce qui va se passer dans quelques minutes, puisque nous allons aller à la rencontre d'un postulant qui est venu vous demander de l'aide, que vous avez coaché, relooké, bref, tout ce que vous nous racontez depuis une demi-heure. Eh, dites-moi Manon, emmenez-moi devant le portant qui pourrait me relooker là. Il n'y a pas un petit truc pour moi qui pourrait me faire du bien là? Parce que j'ai l'impression d'être habillé comme un pingouin en fait. Dites-moi ce que vous pourriez me conseiller, là, si je devais rentrer dans une radio pour être journaliste.
Alors là, du coup, c'est plutôt les coach images qui vont être adaptés pour vous accompagner pour le coaching. Mais comme vous pouvez voir dans le dressing, il y a et des pantalons de costume, par exemple, et des ensembles complets.
C'est obligatoire le costume pour moi?
Et non, ce n'est pas obligatoire. On essaye de correspondre quand même à tout type de projet professionnel.
Vous avez vu la tête que j'ai, hein?
C'est pas une question de tête, c'est une question de projet. Mais effectivement, on essaie de s'adapter aux différents projets. Quelqu'un qui voudrait travailler en informatique, par exemple, ça n'a pas forcément d'utilité d'avoir le costume complet. Et l'idée, c'est toujours de s'adapter au projet de la personne.
Alors là, vous m'avez emmené devant un mannequin. Il y a un petit gilet à 6 boutons, c'est ça, avec la petite chaîne, la petite chemise rose. C'est quoi comme type de tissu?
Alors ça, très bonne question. Je vous avoue que je ne vais pas avoir la réponse. Je ne suis pas...
C'est pas grave. C'est ça qu'il faudrait que je mette pour aller postuler pour un emploi de journaliste?
Non, je pense que ça, pour un emploi de journaliste, ça pourrait faire un petit peu l'effet contraire. L'idée, quand on parle de code, c'est qu'il y a aussi des choses à ne pas mettre, ou en tout cas à ne pas privilégier pour certains profils. Moi, je vous conseille un petit chino, par exemple.
C'est quoi un petit chino? Alors... Venez, montrez-moi le petit chino. Ah, voilà le petit chino. Ah, c'est clair, ça. D'accord, ça m'irait.
Voilà, c'est des pantalons qui sont un peu moins formels qu'un costume. Mais par exemple, un chino avec un polo ou même une chemise, mais sans avoir de veste forcément, ça fera très bien l'affaire pour votre projet professionnel.
Alors, on va terminer avec vous cette deuxième partie, Manon Becquet, parce que vous avez, je l'ai annoncé en début d'émission, vous êtes chargée des partenariats associatifs, c'est-à-dire qu'en fait, le cœur de votre action au sein de la Cravate Solidaire, c'est de créer des relations avec les associations qui vont aider à l'insertion. Parce que vous m'avez parlé de CDD insertion, racontez-nous.
Tout à fait. Pour vous prendre l'exemple, aujourd'hui, nous accompagnons un groupe qui est sur un chantier d'insertion de la Croix-Rouge. Et donc, ces personnes-là sont en CDD d'insertion pour une durée de 2 ans maximum. L'idée, c'est qu'ils soient formés sur un secteur en particulier, mais aussi qu'ils bénéficient d'un accompagnement social. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être un accompagnement vers l'accès au droit, l'accès au logement, ça peut être très large. Mais voilà, il y a toujours cette notion d'accompagnement social à côté également.
Voilà, ils ne sont pas largués sur un emploi comme ça, il y a tout autour d'eux, tout un système qui se met en place pour accompagner le mouvement.
Tout à fait. Et on a la chance en Ile-de-France et plus largement en France, mais on a la chance d'avoir un tissu associatif qui est quand même très large. Et donc le nombre de structures qui accompagnent les personnes en recherche d'emploi le sont tout aussi. Et donc les structures sont très variées. Donc comme je vous disais, ça va de chantiers d'insertion, mais il y a également des centres de formation, effectivement. Il y a également des écoles, donc pas des écoles privées, mais des écoles qui vont accompagner, par exemple, des jeunes qui n'ont pas eu d'autres options ailleurs, par exemple.
Une école de la deuxième chance ?
Tout à fait. Par exemple, on travaille beaucoup avec certaines antennes des écoles de la deuxième chance. Et donc là, par exemple, l'atelier coup de pouce, il intervient plutôt en fin de leur parcours, quand ils ont déjà acquis des compétences sur un certain secteur et qu'ensuite ils vont se lancer en recherche pour obtenir un stage, une nouvelle formation, même une alternance. Ils passent en atelier coup de pouce. C'est très complémentaire.
Manon, si vous me le permettez, nous allons faire à nouveau une petite halte avec une deuxième pause musicale. Alors, la chanson qui va suivre est interprétée par un chanteur québécois. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, les auditeurs ne sont pas encore au courant, vous avez bondi en l'air en disant « ouais, super ». Alors, je suis ravi que ça vous fasse plaisir. Cette chanson, elle est extraite de son premier album studio. Il réalise alors son premier single qui sortira en décembre 2000, le 29, pratiquement le dernier jour de l'année. Mais la chanson a été écrite et composée par Romano Musamara et Luc Plamondo. Elle sera classée pendant 10 semaines consécutivement à la première place du classement des ventes en France. Un beau succès, une voix vibrante, reconnaissable entre 1000. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Allez, on écoute Seul, c'est Garou.
Point de départ. Celui ce lambeau de la nuit.
Vous savez où vous êtes ? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au bip, vous laissez votre message.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Alors, on continue avec cette petite visite à la cravate solidaire aujourd'hui. Donc, dans le 13e arrondissement de Paris, rue Nationale. Dans cette dernière partie de l'émission. Et à mes côtés, Dylan Macedo va nous raconter ce qui lui est arrivé, ce qui lui est arrivé. Bonjour Dylan.
Bonjour, vous allez bien ?
Oui, oui, très bien. Et vous ?
Ça va, nickel. Merci.
Alors, pourquoi vous êtes venu à la cravate solidaire ?
J'ai connu ça grâce à ma conseillère d'orientation professionnelle, Fatoumata. De base, je ne connaissais pas du tout la cravate solidaire. Elle nous a inscrit à un atelier pour une recherche d'emploi. Que ce soit pour un accompagnement dans les entretiens ou dans la tenue. Et je m'étais dit que ça peut être un plus pour pouvoir être meilleur, on va dire, dans mes futurs entretiens à l'avenir.
Alors, on va reprendre les choses un peu dans l'ordre, si vous me permettez, Dylan. En fait, vous êtes déjà en poste à la Croix-Rouge française. Vous faites quoi à la Croix-Rouge française ?
Et je suis exactement à la Croix-Rouge Logicité. C'est une branche de la Croix-Rouge qui s'occupe généralement de la précarité énergétique. On est divisé en deux équipes, l'équipe d'animation et l'équipe de médiation. Et moi, je fais partie de l'équipe d'animation.
D'accord. Et là, vous avez un emploi.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, je suis à la Croix-Rouge Insertion. C'est un contrat qu'on appelle CDDI. C'est sur 2 ans, renouvelable tous les 6 mois. Et ça nous aide aussi à récupérer une vie active dans le métier.
Un pied à l'étrier, comme on dit. Et puis, c'est normal d'avoir un emploi, tout simplement, et des revenus.
C'est ça, exactement. Avoir un revenu à côté. Et en même temps, on a notre CIP, notre conseillère d'orientation, du coup, Fatoumata, qui nous guide et qui nous aide à avoir un projet, ou si on a déjà un projet tout établi, pour pouvoir le réussir et partir de là-bas avec un emploi.
Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, Dylan, c'est quelque part un rebond que vous êtes en train de faire à la Croix-Rouge. Vous voulez vous orienter vers autre chose après. Vers quoi ?
Moi, pour ma part, ça serait plus dans le domaine commercial. Parce que j'ai fait toutes mes études dans le commerce, avec mon bac, mon BTS. Et c'est la suite logique.
Alors, vous êtes arrivé ici à la cravate solidaire. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Racontez-moi.
Comment ça, j'ai pas compris.
Quand vous êtes arrivé ici à la cravate solidaire, qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Je suis arrivé car notre conseillère nous a inscrit ici. Comme je connaissais pas, je m'étais dit je vais tenter l'expérience. Et après, en faisant mes petites recherches à gauche, à droite à gauche, j'ai pu voir que c'était vraiment basé sur l'accompagnement pour retrouver un emploi, mais plus. Nous,
pour rebondir
pour plus nous former à être meilleur en entretien pour certaines personnes qui ont des lacunes.
Alors vous avez fait quoi en arrivant ?
Là on s'est posé et moi j'ai rendez-vous normalement après, à 14h ou à 14h30 pour une simulation d'entretien avec des RH bénévoles. Ça va nous mettre dans une mise en situation que moi j'aime personnellement, tout ce qui est mise en situation j'aime bien. Entre temps, avant que ça commence, ils nous ont aidé à choisir une tenue professionnelle.
Alors, la tenue, puisque c'est important ici, il y a beaucoup de choses qui concernent la tenue. La tenue que vous portez, c'est celle avec laquelle vous êtes arrivé ?
Non, du tout. C'est avec deux personnes qui m'ont aidé à trouver ce qui peut me correspondre par rapport au poste que je veux postuler.
C'est quoi le poste où vous voulez postuler ? C'est quoi ? C'est un poste d'administratif commercial, de commercial terrain ?
Commercial ou commercial terrain, je m'adapte à tout.
Il n'y a pas de cravate, c'est normal ?
J'ai pas voulu, je trouve que c'était pas la peine. Vu la tenue que j'avais, je m'étais dit que non, je suis bien sans.
D'accord. Ensuite, là, vous allez passer d'autres phases avec eux. Vous allez passer à quoi ?
La prochaine phase, c'est une phase d'entretien. C'est la simulation d'entretien avec une personne bénévole qui a l'habitude de faire ça. C'est ce qu'on appelle une RH bénévole, tout simplement.
Voilà, vous allez passer des entraînements avec, pour des entretiens, ça va vous mettre en condition, on va corriger le tir.
Et ils vont nous, on fait une simulation d'entretien et à la fin ils vont nous dire ce qui va et ce qui ne va pas et sur ce quoi on pourrait corriger à l'avenir, tout simplement.
Eh bien, Dylan, merci d'avoir accepté de témoigner et bonne chance, merci. Comme on dit.
Merci beaucoup, c'était une expérience, elle était sympa de se faire interviewer. Peut-être qu'il y en aura d'autres à l'occasion, qui sait.
Eh bien, Dylan, je vous propose un truc. Je vous dirais que je vous recommande vivement de réécouter ce que vous venez de dire. Okay. C'est en podcast sur le site d'Aligre FM. Okay. Et ça va attendez que j'amène le micro. Et ça va sûrement vous intéresser. Vous allez voir, c'est plein d'enseignements de se réécouter.
Bah, franchement, avec plaisir. Hein. Ça va être cool. Je pourrais montrer ça à mes proches, comme quoi je me suis fait interviewer. C'est cool de commencer le lundi avec une petite interview.
Le plus important, c'est ce que vous racontez, c'est le contenu. Merci en tout cas, Dylan. Et puis, je vous laisse continuer.
Merci, bah bon courage et bonne suite, bonne chance pour la suite.
Vous aussi, au plaisir. Et on continue donc avec la cravate solidaire où nous nous trouvons depuis le début de cette émission. Alors je rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous sommes 162 rue Nationale, c'est dans le 13e arrondissement, un endroit charmant, fort sympathique. Permettez-moi, Manon Becquet, de reprendre le chemin avec vous, si vous me le permettez. L'étincelle va bientôt se terminer et... On va parler quand même de ce qui se passe en France, parce qu'on l'a évoqué rapidement, mais vous avez 15 associations cravate solidaire dans les 4-5 plus grosses villes de France. Vous avez le même schéma d'organisation ?
Oui, tout à fait. En fait, les antennes sont indépendantes, mais tout l'ensemble est chapeauté par une tête de réseau. Et le fil rouge, la ligne conductrice suivie dans toutes les antennes est sensiblement la même, que ce soit au niveau des collectes en entreprise, de l'atelier coup de pouce. Ça, c'est des choses qui sont perpétuées dans l'ensemble des villes. Et après, chaque site a certaines spécificités en fonction du territoire sur lequel l'association se trouve.
Alors, vous êtes présent à Lille, Rouen, Caen, Metz, Rennes, Le Mans, Troyes, Mantes tout court, Clermont-Ferrand, Lyon, Bordeaux, Pau, Toulouse et bien sûr Paris aujourd'hui. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, peut-être... Il pourrait être intéressé pour vous rejoindre ou pour vous aider. Est-ce que c'est possible, ça ? Et puis aussi pour ceux et celles qui en auraient besoin.
Oui, tout à fait. Alors, si jamais vous êtes intéressé pour le don de vêtements ou la partie bénévolat, tout est hyper bien indiqué sur notre site. Vous avez juste à taper la cravate solidaire et ensuite vous cherchez l'antenne qui vous convient et vous tomberez sur le bon contact. Et ensuite, pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, formation ou autre, tout pareil, vous pouvez vous rendre sur notre site. Il y a un petit mail à envoyer, mais ça se fait de manière très simple et vous êtes recontacté. Le délai est assez rapide, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin, on vous accueille les bras ouverts.
Alors, la cravate, je suis accueilli à bras ouverts ici depuis le début de cette émission. Alors, la cravate solidaire, c'est aussi la cravate solidaire mobile, parce que là, ici, c'est un endroit fixe, c'est un endroit charmant, mais vous avez aussi un camion. C'est un projet qui a été imaginé en 2016 et qui a vu le jour en 2019. Il a pour but de faire tomber les barrières de la distance, de la mobilité, hein, les temps de transport, les coûts de transport, les barrières mentales. Vous allez au-delà des gens, vous vous déplacez sur les territoires pour proposer ces fameux ateliers coup de pouce. Alors racontez-moi, vous arrivez avec votre camion et puis vous ouvrez les panneaux, il y a quoi ? Il y a un petit salon, comment ça se passe ?
Alors c'est tout à fait ça, donc ce dispositif, l'idée c'est vraiment de faire de l'aller vers. Effectivement, on en a trois, dont un...
De l'aller vers.
De l'aller vers.
Voilà, c'est pas vers, c'est vers VERS, hein.
Oui, tout à fait, VERS, d'aller vers les personnes qui, comme vous le dites, ont parfois des freins de mobilité, des freins financiers ou autres. Et effectivement, un de nos camions est un poids lourd et dans lequel il y a à la fois le salon d'accueil, donc qui se déploie, le dressing, le bureau RH, donc un petit bureau RH, et le studio photo. Et donc on sillonne les routes, notamment du 93 et du 95, pour aller directement dans les structures, accompagner les personnes au plus proche de chez eux. Et donc on vient clé en main, quoi. On a tout sur nous.
Et on voit bien, là, dans ce cas-là, que la cravate solidaire met en place des actions originales qui sont toujours basées sur l'accompagnement. Et vous avez aussi un système d'accompagnement renforcé. J'ai découvert ça sur votre site. Après avoir identifié le besoin de certains candidats, donc vous procédez de manière plus poussée pour aller donc vers l'emploi, vers donc un système de mentorat. Racontez-nous, alors le mentor, parce que c'est un mot étrange quand même, le mentor, racontez-nous.
Oui, tout à fait, le mentorat, en fait, là, c'est un matching entre deux personnes.
Un matching ?
Oui, tout à fait, un mot anglais encore une fois. C'est un lien entre une personne, donc mentor, et un candidat ou une candidate. L'idée, c'est que ces deux personnes soient liées en fonction de leur projet, enfin du secteur professionnel, du lieu géographique, mais aussi et surtout d'une personnalité. Avant tout, ça reste un lien humain, et donc là, c'est un accompagnement de 6 semaines à 6 mois environ. L'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne vers l'emploi jusqu'à l'obtention d'un emploi. Et des fois, l'accompagnement se poursuit même jusqu'à la fin de la période d'essai pour découvrir les premières fiches de paye, comme on lit une fiche de paye, par exemple. Mais donc là, ça demande un investissement quand même plus important. Il y a une récurrence. C'est un accompagnement qui, comme vous le disiez, est plus poussé. Donc voilà, faut être motivé pour pouvoir faire des rencontres en présentiel. Donc voilà, ça demande du temps, mais c'est un accompagnement effectivement beaucoup plus personnalisé et individuel.
Si vous aviez des conseils pour celles qui nous écoutent et qui souhaiteraient venir à votre rencontre, qu'est-ce que vous leur conseillez ?
Alors, tout dépend de l'action par laquelle ils sont intéressés. Mais si les personnes souhaitent passer en atelier coup de pouce, le seul conseil, c'est ce que moi, je leur dirais, c'est de venir sans stress. Ce moment-là, il est fait pour eux. Les personnes qui sont là, les bénévoles, sont là pour ces personnes-là. Et l'idée, c'est de pouvoir s'entraîner, mais aussi tout un travail de reprise de confiance en soi. Donc, s'il y a un maître mot à voir, c'est pas de stress et nous, on s'occupe de tout, quoi.
Reprise de conscience, de confiance en soi. Là, j'ai à mes côtés. Décrivez-nous là, la séance de shooting. Alors, le shooting, la prise de vue photographique, hein, on va la traduire comme ça. Ça donne quel effet sur ceux qui se regardent après sur la photo, comment ils réagissent ?
Alors, figurez-vous que ça peut être un moment assez touchant parce qu'on propose donc en effet des photos professionnelles, mais aussi des photos qui sont beaucoup plus informelles. Et là, l'idée, c'est de montrer à la personne en fait ce qu'elle peut renvoyer. Et souvent, elles sont surprises et voire émues de visualiser en fait l'image qu'elle renvoie dans ces vêtements-là qui sont pas forcément habituels. Et il y a parfois aussi une prise de conscience et une question d'appropriation de cette image-là. Et on essaie de faire des photos qui soient qualitatives, tant sur le rendu que dans le fond, on va dire. Et donc les personnes, quand elles se voient, voilà, c'est pas rare qu'il y ait des petites larmes qui coulent, quoi. Donc c'est vraiment un petit temps en plus pour continuer d'apprendre à apprécier son image, on va dire.
Une façon finalement de remettre en place son estime de soi.
Tout à fait. C'est vraiment le maître mot, hein, de l'atelier coup de pouce. C'est au-delà du fait de s'entraîner pour les ateliers, il y a vraiment tout un axe sur la reprise de confiance en soi, la valorisation de la personne et la confiance, tout simplement, qui est un peu la clé de tout, je pense.
En tout cas, vous faites un travail essentiel, très important. Alors, on le rappelle, la cravate solidaire, les candidats, on va les appeler comme ça, qui se présentent à vous pour les derniers kilomètres, c'est comme ça que tout à l'heure Nicolas Graziel nous l'a défini, avant d'arriver et de se projeter sur l'emploi, sur le recrutement, puisqu'il y a recrutement à un moment donné, c'est les derniers kilomètres, mais il faut le préciser, c'est gratuit pour l'ensemble de ceux qui font appel à vous.
Oui, complètement, que ce soit le don de la tenue, en fait n'importe quel atelier que l'on propose, ils sont tous 100% gratuits pour les personnes qui en bénéficient.
Sans distinction, vous ne faites pas de tri au démarrage ?
Non, le seul tri, et encore, c'est même pas un tri, mais voilà, le seul prérequis, comme disait Nicolas, c'est d'avoir un projet professionnel, d'être en recherche. C'est vrai que quelqu'un, par exemple, qui est au lycée et qui ne va pas passer d'entretien prochainement, ça intervient trop tôt. Mais c'est vraiment le seul prérequis. Au-delà de ça, c'est ouvert à toute personne, quel que soit le milieu professionnel, quel que soit le milieu tout court. Voilà, toutes les personnes sont les bienvenues.
Avant de nous quitter, Manon Becquet, il y a un truc qui me turlupine là, depuis le début de cette émission. Vous rencontrez beaucoup de gens qui passent vous voir, vous les coachez, vous les aidez, vous les assistez, vous les accompagnez. Bref, vous nous avez raconté ça avec force de détail. Et une fois qu'ils ont trouvé leur emploi, est-ce que vous avez des retours ? Est-ce que certains viennent vous revoir ou est-ce que vous avez encore des contacts ? Et qu'est-ce qu'ils vous racontent ?
Alors, on a énormément de retours écrits, notamment des personnes ou bien directement des structures qui ont orienté les personnes en atelier coup de pouce. Nous, on effectue un suivi à 1, 3 et 6 mois des personnes quand elles sont passées en atelier. Et on sait que 60% des personnes qu'on rencontre en atelier coup de pouce ont une issue positive après leur atelier coup de pouce. Donc, c'est un chiffre qu'on essaye de faire grimper tous les ans, mais on est très fiers de ce retour à l'emploi. Grâce à l'atelier et grâce à l'accompagnement des structures. On vient, comme je disais, vraiment en complément, donc ce n'est pas uniquement grâce à nous, mais on vient donner un petit coup de boost.
Alors, l'étincelle dans la ville va bientôt se terminer. Manon Becquet, je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné. Et avant de nous quitter, je voudrais donc vous remercier tous. Manon Becquet, Pascal, Laurent, malheureusement, on ne pourra pas vous recevoir. On fera ça à l'occasion d'une autre émission parce que l'étincelle dans la ville va bientôt se terminer. Merci à Dylan Macedo. Merci Nicolas Graziel. Merci beaucoup.
Bah, merci à vous. Merci de l'accueil. Et force à la Radio Aligre.
Bah, c'est sympa, merci pour tout. Donc un grand merci à vous tous, merci d'avoir bien voulu nous recevoir à la Cravate Solidaire. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, et je vous recommande bien sûr de retrouver le podcast qui sera la mise en ligne qui sera faite sur le site d'Aligre FM. Nous sommes dans le 13e arrondissement de Paris d'où nous réalisons cette émission, 162 rue Nationale. Merci de nous avoir permis de réaliser cette émission dans le lieu, d'avoir fait la visite. Merci de nous avoir témoigné, de nous avoir raconté à force de détails. J'espère qu'on est allé loin. En tout cas, on a appris pas mal de choses aujourd'hui. J'espère qu'il en est de même pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Et vous pouvez retrouver donc l'adresse mail, les podcasts de toutes les séries, les étincelles dans la ville, quand vous voulez, où vous voulez, sur le site d'Aligre FM, sur Acast, sur Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À la réalisation technique Didier Robert, que je salue chaleureusement et que je remercie. Avant de nous quitter, laissez-moi vous préciser que Aligre FM, Radio Aligre, est avant tout un espace d'expression, de partage et de rencontre, d'échange, animé par un collectif de gestionnaires, de journalistes, d'animateurs, de réalisateurs techniques libres et indépendants. Et, signalons-le au passage, ils sont tous bénévoles. Tout au long de l'année, au micro d'Aligre FM, nous recueillons des paroles en prenant le temps de penser, de scruter ou de contempler le monde dans toutes ses composantes. Aligre FM, c'est sur votre poste de radio en FM, sur le 93.1 ou sur le DAB+, la radio numérique terrestre. Si vous êtes sur la FM, c'est juste à côté de France Culture, c'est première à gauche. Hein. C'est aussi sur vos écrans, grâce au web, partout où il y a Internet, bien sûr. C'est aussi quand vous voulez et comme vous voulez pour retrouver en réécoute toutes les autres émissions de l'Aligre FM, bah, je pense aux petits camarades avec qui on travaille tous. Je vous encourage à faire un petit tour sur le site d'Aligre FM pour en savoir plus. Permettez-moi de vous rappeler que c'est gratuitement, on n'a pas souvent conscience de ça, que vous écoutez nos programmes sur Aligre FM, un journal, vous l'achetez, vous le payez, la télévision, vous payez votre box, là, la radio, vous tournez le bouton, ça marche tout seul et c'est cadeau. Alors, Aligre FM étant un média entièrement gratuit pour tout le monde, pour l'occasion, je me permets de vous le préciser, nous sommes donc une radio associative non commerciale, sans publicité commerciale, et oui, c'est comme ça qu'on a décidé les choses. Et donc, nous sommes une radio libre qui fête ses 45 ans d'existence et c'est loin d'être anodin. Et si vous voulez nous soutenir, eh ben rien de plus simple, vous allez sur le site d'Aligre FM et vous nous faites un don, tout simplement. Voilà. Merci à vous tous d'avoir bien voulu être présents sur cette émission. Je voudrais aussi remercier le collectif qui organise et anime l'émission et les émissions d'Aligre, ainsi que le collectif Le Moment, notre partenaire qui réalise une émission qui a pour titre Le Moment. À la post-production, Didier Robert, Stéphanie Malaret, Gaspard Poudon. Et en ce qui me concerne, il me reste simplement à vous dire au revoir, à prendre congé de vous. Et en ce qui me concerne, on se retrouve lundi prochain à 9h. Voilà, c'était depuis la Cravate Solidaire 162 rue Nationale dans le 13e que cette émission a été réalisée.
Les brouillages de sinistre mémoire ont repris.
En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran.
Aligre FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.
Aligre FM 93.1.